bonjour tout le monde. Bienvenue à ce séminaire collectif société qui a comme particularité d'être dans un autre local, mais en même temps, on se rend compte que cet autre local-là n'était pas assez grand, mais on a des chaises ici. Donc, aujourd'hui, on a un deux pour un, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux exposés. La manière dont on va procéder, c'est que les deux exposés vont se faire ensemble. Ensuite, il y aura une pause. Les questions de discussion auront lieu après la pause. C'est comme ça qu'on va procéder. Donc, le premier exposé, ça va être de Maxime Ouellet. Et le titre est « La dialectique ou l'organisation critique de l'automatisation de la connaissance à l'ère de l'intelligence artificielle ». Donc, Maxime, qui est professeur ici à l'UQAM. Et Éric Martin fera un deuxième exposé qui s'intitule « La misère de la philosophie 2.0 ». Un peu comme ça. Et lui, ça sera. Il est professeur donc de philosophie au Cégep Édouard Monti. Et ça sera après Maxime qu'Éric parlera. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à nous deux l'inviter.
OK, merci Jean-François. Notre présentation va être séparée, mais en même temps est un peu conjointe dans la mesure où on a décidé de se diviser le travail. Éventuellement, dans l'idée ou le projet de peut-être en faire un volume. Donc là, c'est comme si j'écrivais, je parlais du premier chapitre, puis Éric faisait la conclusion. Ça va ressembler à ça le jour où ça va se matérialiser. Donc, le titre de ma présentation est inspiré directement d'une interprétation qui a été faite par Pierre Musso, qui est un philosophe de la technique, spécialiste de Saint-Simon notamment, qui fait dans le cadre d'un de ses derniers livres qui s'appelle « La religion industrielle », une analyse d'un tableau de Véronèse qui a été achevé en 1577, qui s'intitule justement « La dialectique ou l'industrie ». Le tableau que vous voyez ici représente Minerve, qui est la déesse des métiers ou des arts pratiques, qui tend entre ses doigts une toile d'araignée. Puis là, la toile d'araignée, c'est important parce que c'est la figure, finalement, du réseau. Puis la figure du réseau se trouve être un peu le symbole de la religion industrielle, notamment si vous lisez Saint-Simon, il parle constamment des réseaux. Cette toile est exposée, en fait, elle se trouve au toit, au plafond de la salle du collège des palais, du palais de Doge à Venise, puis elle est située entre deux autres. Donc, c'est une immense toile où on retrouve plusieurs tableaux. Puis elle se trouve entre deux autres, dont l'un symbolise la foi et l'autre la raison. Donc, on trouve celui-là au milieu. Donc, nécessairement, l'interprétation qui en est donnée, bien, elle peut être double. Il y a deux explications possibles qui sont fournies par Musso. Premièrement, soit elle signifierait que l'industrie, à l'instar de la dialectique, serait quelque chose comme une liaison médiatrice qui se trouverait à assembler les opposés dans une nouvelle civilisation industrielle. Ou deuxième interprétation, ça pourrait indiquer une nouvelle orientation qui est prise dès le 16e siècle, qui annoncerait justement le remplacement de la dialectique, qui est compris à l'époque comme la logique formelle, qui était propre à la philosophie scolastique au Moyen Âge, par une nouvelle logique. Une nouvelle logique qui serait fondée sur les arts mécaniques. Donc, deux interprétations possibles, puis je vais un peu m'inspirer ou m'appuyer sur ces deux interprétations-là pour analyser l'émergence de l'intelligence artificielle au 20e siècle ou au 21e siècle. Donc, je pourrais annoncer ma thèse déjà, qui dit que si on regarde le développement de l'intelligence artificielle depuis les années 50 environ, on peut dire qu'on assiste à un transfert de souveraineté de l'État vers l'organisation. Ce processus-là s'est opéré, s'est effectué par la disqualification de la lettre au profit du nombre, donc un nouveau mode d'écriture, c'est-à-dire également de passage de la loi vers le code informatique. En gros, ce que je vais présenter dans un premier temps, un retour vers les grandes lignes du débat philosophique qui est au fondement de la modernité, qui oppose le rationalisme à l'empirisme, pour essayer de montrer sa pertinence dans la dynamique contemporaine d'automatisation de la connaissance, pour justement également essayer de comprendre, on pourrait dire, la disqualification de la dialectique, notamment parce que, la dialectique, la critique dialectique de ces deux oppositions-là, qui vont être formulé initialement par Hegel, puis repris par Marx, va se trouver à un peu dépasser ces positions-là, ces deux positions antinomiques, non, au plan du discours, au plan théorique, mais au plan de la réalité, c'est pas ce qui va s'opérer, c'est ce qu'on va essayer de montrer, parce que le dépassement va s'opérer historiquement de manière non dialectique par l'organisation. À la suite d'une triple révolution que je vais présenter aussi, on pourrait dire révolution managériale, révolution cybernétique, révolution néolibérale. Donc, triple révolution qui va participer justement à ce transfert d'hégémonie, on pourrait dire de souveraineté de l'État vers l'organisation, qui, au plan sociologique, va reposer sur une nouvelle forme de régulation que certains appellent maintenant gouvernance algorithmique, forme de régulation de la pratique sociale qui repose sur l'automatisation de la connaissance. Puis finalement, dans un troisième temps, en conclusion, essayer de montrer c'est quoi les implications, quelles sont les implications épistémologiques, politiques, économiques de cette forme de régulation algorithmique à travers l'exemple de la stratégie québécoise de développement de l'intelligence artificielle qui est axée principalement sur les partenariats entre les universités puis les acteurs dominants de ce qu'on appelle le capitalisme des plateformes, c'est-à-dire les GAFA. Donc, premier point, en ce qui concerne justement... Je vais passer très, très, très schématiquement. Là. Je ne veux pas heurter personne dans mon interprétation philosophique puis dans les débats, mais c'est juste pour cadrer un peu le débat philosophique qui, on pourrait dire, qui est fondateur de la modernité, qui oppose le rationalisme kantien à l'empirisme humien. On pourrait dire, si vous lisez Marcuse, son chef-d'œuvre, Raison et révolution, commence à partir de ce débat-là. Justement pour exposer la théorie dialectique de Hegel, puis Michel Freytag dans l'Abîme de la liberté va commencer aussi par ce débat-là pour expliquer finalement comment ces deux positions opposées, duelles, vont participer finalement à la dissolution des fondements de la philosophie classique, c'est-à-dire l'étude de l'ontologie. Hein. Pour dire le rationalisme au départ, on pourrait le faire remonter à Descartes, hein, va se présenter l'image d'un monde et d'un homme mécanique, pour qui la raison se réduit à un ensemble d'opérations abstraites ou de calculs qui sont effectués par une espèce de pur esprit, puis dont le corps va être réduit au statut de machine. Puis on va voir plus loin, justement, dans les débats initiaux puis les fondements théoriques de l'intelligence artificielle, on retrouve la position cartésienne, donc de Descartes. L'attaque contre le rationalisme va être opérée par l'empirisme, principalement celui de Hume, va s'appuyer sur une perspective qu'on va dire nominaliste pour nier l'existence des idées universelles parce que celles-ci ne seraient finalement que des représentations des individus singuliers, des représentations du particulier. Hein. Donc, pour les empiristes, la réalité, elle se réduit à un ensemble de mécanismes psychologiques qui seraient propres à chacun des individus, ce qui vient nier l'existence finalement de l'universalité de la raison aux yeux des idéalistes comme Kant. Donc, pour les empirico-nominalistes, on va voir que leur position est importante parce qu'elle va être reprise par la suite dans les débats sur l'intelligence artificielle. Donc, pour les empirico-nominalistes, il n'existe pas de loi scientifique universelle qui permettrait d'expliquer, par exemple, la causalité. L'exemple de Hume, c'est souvent de dire on n'est pas capable d'expliquer l'effet qui est produit lorsque deux boules de bière s'entrechoquent. Celle-ci pourrait très bien éclater en mille miettes n'importe quand parce qu'il n'existe pas justement d'ontologie ou de fondement d'existence aux choses en soi. C'est seules les régularités empiriques qui existent. Hein. Donc, contre l'empirisme nominaliste, Kant va essayer de sauver la raison. En montrant que, bien que la vérité n'est possible, bien que la validité n'existe qu'à travers la réalité empirique, elle n'est possible, cette réalité empirique, que s'il existe des catégories a priori. Catégories a priori qui organisent la multiplicité des données sensibles. L'idéalisme kantien, donc le rationalisme kantien s'appuie sur un idéalisme transcendantal pour venir justifier l'existence de la raison à partir de concepts, de lois universelles, le temps, l'espace, la causalité notamment. Hein, donc, qui sont considérés comme des a priori de la raison. Donc, la synthèse opérée par Kant pour essayer de sauver la raison va concéder, malgré tout, énormément à l'empirisme. Donc, notamment, la raison va demeurer un pur principe subjectif, donc un peu la manière de Descartes. Non, c'est le « je pense, donc je suis », puis la réalité objective se trouve être en extériorité complexe par rapport au sujet. Donc, on est dans un monde dualiste. Donc, Kant, au plan social, va se trouver à séparer radicalement la liberté du sujet de la société, ce qui revient dans les faits à concéder à l'empirisme utilitariste, la normativité qui va régir la pratique sociale. Donc, en gros, ça veut dire que c'est le calcul utilitaire qui est au fondement de la valeur économique puis de l'économie politique qui aura pour fonction de régir les pratiques sociales concrètes. Donc, le sujet transcendantal kantien qui va être attaqué par tout le monde, on va voir notamment par les postmodernes, est en effet, on pourrait dire, une espèce de sujet anhistorique, désocialisé, qui va préfigurer finalement une espèce de sujet narcissique postmoderne qui repose sur l'unité d'une espèce d'omnipotence abstraite puis d'une impuissance concrète. C'est, donc, Kant, certains pourraient dire, c'est le philosophe de la sortie de la philosophie. Dans la mesure où il se contente, il réduit la philosophie en ce qu'on appelle une gnoséologie ou en épistémologie, essentiellement, qui se contente de penser les conditions de possibilité de la science, mais il va laisser intact, finalement, l'objet de ce qu'était la philosophie classique, donc ce qu'on pourrait dire l'ontologie de l'être social. Donc Hegel, la dialectique, va pas se satisfaire de cette opération de sauvetage subjectif de la raison qui laisse intacte l'opposition binaire entre les catégories philosophiques de sujet, d'objet, de particulier, d'universel, d'être, de la pensée. Donc, Hegel va se trouver à critiquer Kant en montrant que ces séparations ne sont pas un seul problème épistémologique, mais relèvent d'un questionnement ontologique. Donc, qui cherche à expliquer l'ontogénèse de la subjectivité transcendantale kantienne, qui, elle, même découle d'un conflit pratique, c'est-à-dire qui exprime une contradiction réelle dans l'existence, donc qui exige aussi une réalisation dans la pratique sociale. La forme que va prendre ce conflit, Hegel va l'expliquer à travers son concept d'aliénation. L'aliénation de l'esprit, qui est compris au sens où les catégories de la pensée se sont autonomisées par rapport à l'existence empirique des êtres humains qui sont soumis, comme il s'agissait, comme des lois qui seraient pas les siennes, indépendantes de leur volonté. Donc, pour Hegel, l'existence finalement effective de la liberté exige la mise en place d'un ordre social qui serait conforme à la raison. Donc, c'est via justement le conflit social, comme disait Marcus, c'est via la réforme et la révolution qu'on peut constater ou qu'on peut montrer la conformité en cet idéal puis le réel. On pourrait dire en ce sens-là, la méthode, la dialectique qui est déployée par Hegel, elle va être reprise par Marx, puis elle va consister à déduire les catégories de la pensée à partir du social, puis ce qui permet justement à Marx par la suite d'en faire une analyse critique, une critique de l'économie politique, c'est essayer de penser l'ontogénèse des catégories qui structurent la pratique sociale. D'ailleurs, lorsqu'on parle de critique de l'économie politique, qui est le sous-titre finalement du Capital, il s'agit d'une critique normative, d'une certaine manière, parce qu'elle se fonde sur l'idée de l'inhumanité sur laquelle repose le capitalisme. Puis d'ailleurs, une citation de Marx dans les manuscrits 44 qui est très pertinente pour opérer une critique de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle. Il va dire « L'aliénation, c'est de façon générale la puissance inhumaine qui domine. » Une puissance inhumaine qui domine. Donc, l'aliénation, en gros, reprise par Marx, puis inspirée de Hegel, on pourrait dire, elle se caractérise par une objectivité qui est détachée du social, puis qui prend la forme d'une puissance aliénée, puis incontrôlable. Si on poursuit dans l'analyse de la dialectique, on pourrait dire plus près de nous, si on observe les travaux de Freytag, on pourrait dire, s'inspire en grande partie de Hegel, de Marx aussi. Puis, si on lit Dialectique et société, on retrouve à peu près tous les fondements normatifs qui permettent d'opérer une critique de l'intelligence artificielle. On pourrait dire, y réfère à quelques endroits, mais on peut très bien l'opérationnaliser de la sorte, le penser de la sorte, dans la mesure où sa recomposition, finalement, des médiations symboliques puis politico-institutionnelles qui sont constitutives de la modernité se trouve être finalement les fondements normatifs qui permettent de faire la critique de cette transition-là, qu'on pourrait dire de la dialectique vers l'organisation, donc le passage vers un système décisionnel opérationnel, notamment via sa théorie du langage, qui est fondamentale pour opérer une critique de l'intelligence artificielle. Le langage, on pourrait dire, Freytag l'a défini comme l'expression objective d'une expérience significative collective. C'est la principale forme de médiation symbolique dans la mesure où c'est ce qui oriente significativement la pratique sociale au sein d'un monde qu'on considère comme commun. Donc, lorsque Freytag notamment analyse le langage, il fait nécessairement référence aux langages particuliers, aux langues particulières qui appartiennent aux sociétés telles qu'elles se sont constituées historiquement. Donc, on va dire qu'elles sont l'expression d'un universum concret et s'opposent justement à la définition d'un langage universel abstrait qui va être le fondement finalement théorique de l'intelligence artificielle. Donc, le langage universel abstrait, c'est un pur code. C'est un code informatique. Donc chez Freytag, on retrouve également cette idée que la modernité est structurée à partir de modifications politico-institutionnelles qui vont permettre aux sociétés de se donner réflexivement des finalités collectives, qui vont trouver leur légitimation au sein d'une délibération rationnelle, au sein d'un espace public politique. Donc, d'un point de vue sociologique, dialectique, on va dire, l'État, c'est une institution qui, en s'autonomisant en partie du social, permet de créer une certaine forme de distance critique par rapport à la société, puis c'est de cette manière qu'elle peut réfléchir sur elle-même, puis institutionnaliser par la suite ses finalités normatives qui vont prendre la forme de la loi. Au moyen, justement, de la praxis politique. Puis, si on observe ça, on peut remarquer que c'est l'ensemble de ces médiations qui en viennent à être appropriées à l'heure actuelle par les déploiements de l'intelligence artificielle. Donc, quand on dit passage de la dialectique à l'organisation, on peut dire une des révolutions fondamentales, finalement, qui a conduit à la dissolution carrément des catégories binaires au fondement finalement du débat de la pensée moderne. Donc, humanité, nature, humain, machine, temps, espace, sujet, objet, c'est la révolution cybernétique. La révolution cybernétique va subsumer l'ensemble de ces oppositions dans un processus informationnel de rétroaction. Justement, je vais en parler plus tard, mais qui va s'opérer notamment à travers la forme institutionnelle de l'organisation. Donc, les dualismes qui sont constitutifs de la pensée moderne ne seront pas dépassés dialectiquement au moyen de l'action politique révolutionnaire, comme le pensait Marx, mais au contraire, au moyen d'une nouvelle révolution qui sera la révolution managériale et la révolution cybernétique. Donc, parce que l'intelligence artificielle, lorsqu'on observe ses fondements, son apparition historique, théorique, elle naît de la cybernétique. Même si l'intelligence artificielle, comme on pourrait dire discipline théorique, elle va chercher à s'autonomiser de la cybernétique pour en faire une espèce de science de la cognition, ses fondements théoriques partent de la cybernétique. Donc, si vous lisez un bouquin qui m'apparaît vraiment pertinent, puis pour essayer de faire une critique épistémologique de l'intelligence artificielle, c'est le livre de Lucien Sfez qui a été écrit au début des années 90 qui s'appelle « Critique de la communication ». Sfez, il joue un peu le rôle de Tocqueville. Plutôt que ce soit la démocratie en Amérique, c'est de la cybernétique en Amérique. C'est le Français qui arrive en Amérique, il s'en va à la Silicon Valley, puis là, il observe, disons, dans un autre monde, qui est en train de détruire la République. Les fondements du principe républicain sont en train d'être détruits à travers l'opérationnalisation d'un ensemble de procédures qu'on peut observer. C'est dans la Silicon Valley. Puis il dit, ça fait écho à Musso, finalement, il dit, c'est une nouvelle religion qui est en train d'apparaître. C'est pas innocemment que ça apparaît aux États-Unis. Dans une société que 90% des gens croient en Dieu, c'est pas étonnant qu'ils puissent maintenant croire aux machines. Donc Sfez, il voit dans les débats théoriques qui vont avoir lieu au sein des premiers déploiements de l'intelligence artificielle, le même dualisme qui s'opérait dans le fondement de la philosophie moderne. Le débat qui était entre le rationalisme et l'empirisme va se reproduire dans les débats épistémologiques qui vont porter sur l'intelligence artificielle. Sfez va dire ces débats-là sont pris dans une nouvelle idéologie. Il va dire que c'est une idéologie de la communication. Dans la mesure où elle va coloniser l'ensemble des autres disciplines académiques, il va dire sciences des organisations, économie, sciences cognitives, biologie, philosophie, analytique, droit, etc., sont toutes fondées sur la même idéologie. Puis, il y a deux positions initiales qui vont, j'ai mis un petit tableau récapitulatif, finalement, qui expriment l'évolution des différents courants dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a deux perspectives initiales, vous les voyez ici, c'est la perspective symbolique, l'IA symbolique, qui est fondatrice de l'intelligence artificielle, puis la seconde, c'est la connexionnisme, en fait, qui correspond à la cybernétique, qui est maintenant dominante. Je vais vous expliquer un peu l'évolution du débat, mais je ne suis pas un technicien. Je ne peux pas vous expliquer tous les tenants et aboutissants, mais on peut comprendre, justement, théoriquement et schématiquement, un peu c'est quoi qui oppose ces deux courants-là. La première perspective, donc, qui va donner lieu au concept d'intelligence artificielle, c'est la perspective qu'on va appeler symbolique, hein, assez bizarrement, qui se fonde sur un modèle qu'on va dire de la représentation. Okay. Le deuxième courant, qui est plus inspiré de la cybernétique, est un courant qu'on va appeler connexionniste, qui est fondé sur l'idée de l'auto-organisation. Donc, Fais va dire que c'est une idéologie, puis va introduire, c'est la nouvelle idéologie dominante aux États-Unis, puis va introduire un concept qu'il va appeler totisme, qui est un néologisme entre autisme, tautologie et totalitarisme pour décrire cette nouvelle idéologie-là. Hein, il va dire le totisme, c'est quoi? C'est la confusion des deux genres. Hein, de la représentation et de l'expression, hein, qu'on retrouve dans les deux courants de l'intelligence artificielle. Donc, on croit dans l'expression immédiate du réel, hein, immédiate spontanée, donc dans le spontanisme pur, là où, en fait, ce qui règne, c'est le règne de la représentation. Hein, on croit exprimer le monde, mais c'est le monde des machines qui me représente, hein, puis qui s'exprime à ma place. Donc, le meilleur exemple qu'on peut avoir du totisme. Donc, la perspective symbolique, dite symbolique, est fondée explicitement sur le modèle cartésien de Descartes. Un de ses principaux représentants, puis qui est important pour nous, c'est Herbert Simon, prix Nobel d'économie, puis un des principaux théoriciens du management. Donc, qui va s'inspirer également des théories de Chomsky, donc de Noam Chomsky, sur la grammaire générative pour fonder sa théorie de l'intelligence artificielle qui a la prétention de représenter au moyen du langage algorithmique les processus cognitifs des humains. Donc, on est ici dans un modèle de communication qui est celui des boules de billard. Hein, le modèle, finalement, émetteur, message, récepteur, dont on peut mesurer les effets donc en calculant. Donc, on est dans un pur dualisme. La réalité est objective est extérieure au sujet. La représentation constitue, selon lui, le fondement même de l'action et de la perception. Donc, on a le dualisme cartésien. Donc, l'IA symbolique, on va dire, elle repose sur un réductionnisme, hein, qui réduit le fait de penser à calculer des symboles qui ont une réalité matérielle et une valeur sémantique. On va dire que c'est une approche qui est computationnaliste. Hein, donc, réfléchir, penser, se résume à opérer des calculs, faire des opérations de calcul ou à computer, hein, d'où l'expression computationnaliste. Donc, on pourrait dire, si on part des théories... du langage dans leur fondement normatif, ben c'est une solution du caractère normatif et expressif du langage humain, hein, qui vient à être retraduit en pur calcul algorithmique. D'ailleurs, une belle citation de Merleau-Ponty qui dit « L'algorithme, le projet d'une langue universelle, c'est la révolte contre le langage donné. On ne veut pas dépendre de ces confusions. On veut le refaire à la mesure de la vérité, le redéfinir selon la pensée de Dieu, recommencer à zéro l'histoire de la parole, ou plutôt arracher la parole à l'histoire. Hein, » puis ça, bon, en fait, l'algorithmique est déjà pensé chez Leibniz. Hein, Leibniz avait déjà pensé l'idée de retraduire toute la pensée en calcul binaire. Hein, donc, on pourrait dire, c'est l'équivalent chez Marcuse de ce qu'il appelle le langage fonctionnel. Donc, c'est de l'anti-dialectique par excellence. Le langage fonctionnel, c'est un langage auquel on a un langage qui est fondé sur une rationalité opératoire, auquel on a enlevé tous les éléments transcendants, négatifs, oppositionnels, qui fondaient justement la dialectique, hein, qui permettaient la critique. Donc, c'est l'approche symbolique qui va dominer jusqu'aux années 80. Après ça, à partir des années 80, bon, on va dire l'intelligence artificielle va tomber dans un hiver noir, donc il n'y aura plus de financement, puis on arrête d'en parler. Hein. Elle va s'opérationnaliser principalement dans le système expert. Donc, vous voyez ici, système expert, finalement, qui vont continuer après jusqu'aux années 90. Puis c'est quoi le système expert, finalement? C'est un modèle terroriste. Hein? C'est la même opération que va faire Taylor pour essayer de décomposer l'activité et le geste des travailleurs pour le réifier dans la machine. On va faire la même chose avec l'intelligence artificielle dite symbolique. Elle va décomposer l'ensemble. Chez Simon, c'est d'autant plus vrai que son modèle, c'est l'organisation. Donc, c'est un modèle de sciences de la gestion. C'est la décomposition de l'ensemble des communications qui permettent un processus de prise de décision au sein d'une organisation qui va être décomposée en une série de 0 et de 1. Donc, on dit système expert parce qu'on va prendre ton comptable, puis comment est-ce qu'il poursuit son raisonnement, etc. Puis donc, t'externalises dans une machine ton processus de prise de décision. Donc, ce type de IA-là va s'effondrer pour plusieurs raisons, notamment parce qu'elle avait la prétention, Simons notamment, la prétention d'avoir une espèce de global problem solver, qu'il appelait, donc une espèce de machine intelligente artificielle qui allait contrôler l'ensemble de l'humanité. Ça n'a pas fonctionné, donc on a arrêté de se donner de l'argent. Puis, la seconde approche, qu'on va dire connexionniste, va s'inspirer très largement de la première cybernétique qui va être celle de Weiner, mais surtout celle de McCulloch et Pitts, qui vont être les premiers à théoriser des neurones synthétiques, donc des espèces de neurones. Donc l'analogie ici est avec finalement le cerveau puis le processus neuronaux. Hein. Donc elle est d'inspiration, directement spinoziste. Hein. Donc on a un modèle cartésien auquel va s'opposer un modèle spinoziste. Dans la mesure où elle repose sur une perspective moniste, hein, qui va s'opposer au dualisme cartésien. Donc, son paradigme est fondé sur l'idée de l'auto-organisation. Hein. Puis ça va permettre d'expliquer finalement l'attrait que vont avoir les théories postmodernes pour les modèles cybernétiques d'inspiration connexionniste. Vous lisez Deleuze, hein, sur quoi écrit Deleuze? Spinoza, Leibniz, Hume. Donc, tu as deux mondes, donc un monde cartésien auquel va s'opposer de manière purement duelle un monde connexionniste, mais qui est pris dans la même matrice, donc la même idéologie de la sphère de la communication. Donc, le modèle connexionniste n'est pas fondé sur l'idée d'une communication représentative, hein, parce que c'est une réification. Donc, on est dans un modèle de la représentation réifiante. Le modèle connexionniste est fondé sur la communication expressive. Donc, la réalité du monde n'est plus objective, mais fait partie du sujet dans un modèle de causalité circulaire. Hein. C'est le paradigme qui, à l'heure actuelle, est à l'origine des développements dans le domaine de l'intelligence artificielle. Puis c'est pourquoi on en entend parler. Donc, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle à l'heure actuelle, c'est principalement le modèle connexionniste, donc qui est fondé sur le machine learning, le deep learning. Hein. Il s'agit d'un modèle qui est purement inductif, hein. Donc, qui a la prétention de se passer des théories, des hypothèses pour expliquer la réalité. C'est-à-dire que dans l'ancien modèle, tu avais un programme qui essayait de représenter la réalité. Ici, ce qu'on se retrouve à faire, c'est d'accumuler l'ensemble des informations qui, au moyen d'un processus neuronal, permet par la suite d'établir une corrélation entre les événements sans qu'on puisse les expliquer d'un point de vue rationnel. Hein? On ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Donc, c'est un modèle complètement opposé, dont la condition de possibilité, c'est d'avoir des supercalculateurs. C'est pour ça que le modèle connexionniste ne fonctionnait pas. Les ordinateurs n'étaient pas assez puissants, puis on n'avait pas assez de data. Hein. Donc, c'est la numérisation du monde généralisé avec les Google, avec l'Internet des objets, etc., qui a rendu possible cette nouvelle IA-là, en du moins son opérationnalisation, même si elle existait théoriquement. Dans la pratique, ce n'était pas possible de le faire. C'est un modèle, finalement, d'auto-apprentissage qui permet, finalement, au réseau de neurones d'auto-apprendre, de s'auto-développer par elle-même. Principaux théoriciens dans le domaine, c'est Jeffrey Hinton, qui travaille pour Google Brain. C'est tous des gens qui étaient dans une université qui ont été rachetés par les GAFAM. Yann LeCun travaille pour Facebook. Puis, à Montréal, on a Yocha Bienju, qu'on entend souvent parler, qui travaille lui aussi pour tout le monde, à peu près. Donc, qui est fondateur, je vais en parler plus tard, de Element AI, qui est la start-up montréalaise qui a la prétention de remplacer Google. D'ailleurs, si vous allez lire Benjo, je ne comprends pas vraiment ses articles, mais lorsqu'il se met à expliquer le social, ça devient extrêmement problématique. Dans la mesure où, dans un article, vous pouvez aller lire, qui s'appelle « Evolving Culture versus Local Minima », il va se baser, il va essayer d'expliquer en quoi la recherche fondamentale dans le domaine du machine learning, du deep learning, peut permettre d'expliquer l'évolution culturelle de l'humanité. Hein, qui s'apparente à un processus d'évolution darwinien, essentiellement, c'est de la sociobiologie qu'il est en train de faire. Il se fonde explicitement sur Richard Dawkins, qui avait produit une thèse sur les gènes égoïstes. Hein. Pour essayer d'expliquer l'évolution, donc le gène égoïste, essayer d'expliquer l'évolution de l'espèce humaine, mais Dawkins, dans son bouquin, avait également émis comme hypothèse que l'évolution culturelle pourrait s'expliquer à la manière des gènes. Hein, puis c'est le premier qui a introduit le concept de mime pour expliquer comment les meilleures idées, finalement, par un processus d'évolution, vont se transmettre dans le temps. Hein. Donc, le mime qu'on retrouve maintenant comme espèce de buzzword dans les médias sociaux, on se trouvait, finalement, sa réalité pratique se trouve maintenant, mais elle avait théorisé dans un modèle darwinien, donc de sociobiologie. Donc, on peut dire que non seulement hein, les développements contemporains dans le domaine de la recherche d'intelligence artificielle sont directement appropriés par les corporations dominantes dans le domaine du capitalisme numérique, GAFAM et compagnie. Hein. Il y a six compagnies qui dominent, c'est GAFAM plus IBM, qui contrôlent à peu près l'ensemble du secteur. Parce que la seule manière de faire de la recherche dans ce domaine-là, c'est d'avoir accès aux données qui sont possédées par ces entreprises. Donc, il y a un gigantesque processus de concentration de la possibilité de la connaissance entre les mains de quelques-uns. Mais encore plus, c'est que les recherches qui se veulent fondamentales ou théoriques dans le domaine viennent participer à la diffusion de leur idéologie. Parce que Benjiou, quand tu lis son article, il finit en disant « Ah, ben ce qu'on devrait faire, en fait, c'est de permettre ou de favoriser la diffusion des bons mimes dans la société. » Puis comment on peut faire ça, hein, dans une société informationnelle? C'est qu'il faut favoriser la diversité des points de vue, hein, notamment en mettant en place des systèmes d'évaluation de type Uber, où donc on calcule, on mesure hein, un système d'évaluation qui permette, système d'évaluation automatisé, qui permet de détecter ce qu'il va appeler les mimes égoïstes, c'est-à-dire les fake news. C'est exactement le modèle de Facebook pour essayer de contrer la montée du phénomène des fake news. Hein, donc, on est dans l'automatisation de la connaissance. Ça mène mon premier partie plus théorique. Je veux descendre au plan sociologique pour expliquer comment est-ce qu'on peut comprendre l'évolution hein, de ces différents courants de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il est nécessaire de saisir les liens entre le développement de l'intelligence artificielle au 21e siècle avec les mutations institutionnelles du capitalisme hein, qui résultent, comme je disais, d'une triple révolution managériale, cybernétique, néolibérale. Hein. Donc, dans le capitalisme qu'on va appeler avancé du 20e siècle, on pourrait dire le marché est remplacé par le contrôle sur l'environnement qui est exercé par le management au sein des corporations. Hein? D'ailleurs, on pourrait dire, c'est dans le concept d'organisation que vont se rencontrer la cybernétique puis le management. Hein? Donc, le management, tu trouves à mettre en place les dispositifs de circulation et de rétention de l'information qui permettent aux organisations de se créer, de se maintenir, de se reproduire puis de rester en vie. Hein? Donc, les développements, on pourrait dire, de l'intelligence artificielle vont suivre les transformations qui vont s'opérer au sein des corporations du 20e au 21e siècle. Hein? Donc, il passe de la forme pyramidale, la firme pyramidale chandlerienne, c'est le modèle d'intelligence artificielle de Simons, parce que le modèle de Simons, c'est un modèle qui est explicitement hiérarchique. Donc, il est un système de processus de prise de décision qui part d'en haut puis descend en bas, ou vice-versa. Mais, donc, c'est un modèle hiérarchique, hein? Donc, qui est fondé sur une technologie fondamentalement hiérarchique, d'où l'espèce de paradoxe, d'ailleurs, qu'on voit, c'est Chomsky, qui est l'anarchiste par excellence, qui est financé par l'armée américaine pour participer au développement du computationnalisme. Donc, la technologie en soi est hiérarchique, mais si on observe les développements de l'IA, ben, on passe de, corollairement, on pourrait dire, de la firme chandlerienne, pyramidale, à la firme en réseau qui va se décomposer les années 90, au fantasme, finalement, de ce qu'on appelle maintenant la plateforme, hein, qui est la nouvelle forme de la nouvelle forme de la corporation ou de l'organisation, dont le modèle type, c'est la plateforme d'Amazon qui s'appelle Mechanical Turk, hein, qui est un système automatisé de décentralisation des tâches. Hein. Donc, on fait faire des micro-tâches à des individus sur la plateforme qui sont payés un micro-salaire. Le salaire horaire moyen, c'est 2$. Donc, quand tu t'abonnes ou quand tu travailles pour la plateforme Mechanical Turk, tu n'as pas de boss, c'est finalement des opérations automatisées qui t'envoient des ordres. Donc, on va dire en ce sens-là, l'intelligence artificielle, puis son fondement théorique est la cybernétique, c'est l'apogée de la mathématisation du réel qu'on retrouvait dans la science moderne. Mais la principale différence, c'est alors que les mathématiques modernes avaient pour fondement de quantifier le réel. Lorsqu'on passe au modèle cybernétique, puis celui de l'informatique, on s'émancipe carrément de l'attache au monde concret, puis on en vient à produire une pure simulation du réel, hein, qu'on peut conséquemment programmer puis contrôler. Donc, dans ce monde-là, la vérité ne correspond plus, finalement, on pourrait dire, entre l'adéquation entre le réel puis le concept, mais plutôt en une simple corrélation entre des symboles mathématiques puis des mesures. Donc, pour vous donner un exemple, hein, si tu prends l'exemple de l'économie politique classique, qui est théorisée par Adam Smith, Ricardo, Marx, peu importe, on va s'appuyer sur la réalité matérielle du travail, donc qui est la théorie de la valeur travail, qui va trouver sa caution scientifique hein, au sein de la théorie physique newtonienne. qui reposait également elle-même sur une conception abstraite de l'espace puis du temps, qui avait été théorisée par Kant, hein, puis qui trouvait comme objet fétiche, l'horloge. C'est un fétichiste de l'horloge. D'ailleurs, Lewis Mumford, qui, dans Technique et civilisation, on va dire la machine clé de l'âge industriel moderne, ce n'est pas la machine à vapeur, c'est l'horloge. Dans chaque phase de son développement, l'horloge est le fait saillant et le symbole de la machine. Donc, dans le nouveau capitalisme contemporain, qu'on peut appeler cybernétique, c'est le fétiche de l'ordinateur qui va se superposer à celui de l'horloge. Puis qui va permettre l'émancipation de la réalité matérielle, qui permet également d'anticiper des flux de revenus futurs puis de capitaliser dans la financière boursière. Donc, si on observe justement un débat important dans les développements de l'intelligence artificielle, qui correspond finalement à ma troisième révolution, qui est la révolution néolibérale, un autre débat important dans le domaine de la science économique va avoir lieu dans les années 30-40. Puis c'est dans ce débat-là qu'on va trouver les fondements, finalement, on pourrait dire épistémologiques, des nouvelles formes de régulation, qu'on pourrait dire cybernétiques, de la pratique sociale. Puis on les retrouve également dans le débat contemporain, finalement, qui touche l'intelligence artificielle et ses effets sociaux. C'était le débat qui portait sur le calcul socialiste. Donc, on retrouvait d'une part un économiste qui s'appelait Oscar Lange, qui est un économiste socialiste, qui formulait l'hypothèse à l'époque, l'hypothèse théorique, qu'il serait possible de mettre en place une économie planifiée qui prendrait la forme d'un socialisme de marché. Lange, donc, soutenait la thèse qu'il serait possible de mettre en place le socialisme de marché dont la motivation principale ne serait pas le profit à partir des prémices qu'on retrouve au sein des prémices de la concurrence parfaite qu'on retrouve au sein des théories marginalistes en économie, dont les théories néoclassiques. Donc, pour les néoclassiques, le marché, il parvient à un équilibre parfait au moyen d'une espèce de processus de tâtonnement, bref, d'essais et d'erreurs qui permettent d'arriver à un prix d'équilibre entre l'offre et la demande. Donc, en se fondant sur les postulats de l'économie néoclassique, Lange va dire que c'est possible de faire un socialisme à partir d'un État qui planifie en utilisant les mécanismes de marché. Donc, l'État se trouverait à fournir des matières premières, donc des inputs aux entreprises qui, lesquelles, au moyen du mécanisme du marché, se trouveraient entrées en compétition puis permettraient, justement, à partir de ce processus de tâtonnement, d'arriver à un prix d'équilibre des marchés. Donc, c'est une position très traditionnel du socialisme qui dit en gros, c'est une meilleure manière de mieux redistribuer les richesses dans la société industrielle. La position de Lange va être démolie par deux auteurs, principalement néolibéraux. Le premier, c'est Ludwig von Mises, deux Autrichiens, donc Ludwig von Mises puis Friedrich Hayek. Von Mises, contrer la thèse selon laquelle il serait possible de faire un socialisme de marché, bien, il va s'appuyer sur un argument principalement weberien. Il dit en gros qu'il est impossible de mesurer les fins substantives parce qu'elles relèvent des désirs individuels. Donc, elles sont donc incommensurables. Donc, le socialisme de marché ne serait pas possible. C'est un peu le fondement de l'adage néolibéral qui dit « la société n'existe pas ». C'est essentiellement ça. Ce n'est pas le meilleur argument. L'argument fatal contre le socialisme de marché, puis le socialisme en général va venir de Hayek, qui va dire que, qui va effectuer, on pourrait dire, une révolution épistémologique dans le domaine de l'économie, essentiellement, en disant que le marché, ça n'a pas rapport avec l'offre et la demande. Donc, c'est pas rapport d'un lien entre l'équilibre entre l'offre et la demande. Le marché, c'est un algorithme, c'est une gigantesque intelligence artificielle qui transmet des informations aux agents économiques qui sont eux-mêmes conçus comme des processeurs informationnels. Donc, Hayek est dans le prémisse de la première cybernétique, il est dans l'auto-organisation. Donc, le socialisme est impossible pour une raison épistémologique fondamentale. C'est impossible pour une entité centralisée de formaliser, donc de quantifier les savoirs qui sont détenus par les acteurs individuels. Donc, le marché, c'est un algorithme, c'est une intelligence artificielle qui possède une capacité cognitive supérieure aux individus et aux communautés politiques. Donc, pour que le mécanisme algorithmique du marché puisse fonctionner, la société a intérêt à promouvoir l'ignorance. Parce que toute tentative de saisir la réalité de manière synthétique va mener nécessairement au totalitarisme. C'est l'argument politique de Hayek, puis d'ailleurs qui va, on pourrait dire, s'opérationnaliser dans les politiques publiques aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils vont attaquer, les Américains? Le système d'éducation publique, puis les médias, qui va donner lieu au monde de la post-vérité.
Si à la suite, le président du FCC, qui est l'équivalent de notre CRTC, en 1984, disait, c'est Mark Fuller, il disait, une TV, c'est comme un toaster avec des images. On ne réglemente pas les toasters, donc on ne réglemente pas la télé. Donc, ce qui a donné lieu au monde de la post-vérité. Dans le débat, si on comprend bien l'argument politique ici des néolibéraux, hein, dans le débat qui portait sur le calcul socialiste, le but de l'argument, c'est pas tant de détruire l'État, c'est de détruire la société. Hein. Parce que Hayek est tout à fait conscient que l'idée de société, si on la comprend sociologiquement, ben, ça mène au socialisme. Donc, pour détruire la possibilité même socialiste, il faut détruire l'idée de la société. C'est essentiellement qui a été réalisé par les néolibéraux, puis qui a détruit la possibilité même du socialisme parce que les socialistes ont accepté l'argument hayekien. Hein, il y a un bouquin d'un Anglais qui s'appelle Simon Griffith, qui s'appelle Engaging Enemies, donc engager les ennemis. Puis il montre comment, suite à ce débat-là, les socialistes anglais vont complètement accepter l'argumentaire de Hayek parce qu'ils vont dire toute volonté, finalement, de faire une planification socialiste, parce que le socialisme anglais qui prédominait à l'époque, c'était ce qu'on appelle les Fabiens. Donc, on dit c'est du paternalisme, ça empêche le pluralisme. Hein? Donc, ce qui a donné lieu, finalement, à la transformation du labor anglais au new labor, c'est l'acceptation de l'argument hayekien, parce que si on dit toute forme d'activité politique qui viserait le socialisme va mener nécessairement au socialisme. Hein? Pour pas dire cette idée de devenir hégémonique peut être récupérée par tout le monde, a été reprise par tout le monde, d'autant plus que, si vous regardez dans les débats actuels qui portent sur l'intelligence artificielle, les big data, etc., les gens de gauche, autour de la gauche techno-utopique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit... Ben, on a finalement, ils reprennent ce débat-là, puis ils disent, le problème finalement du socialisme, il était technique. Hein? Le socialisme de marché, on ne pouvait pas le réaliser parce qu'on n'avait pas les ordinateurs assez puissants pour réaliser, comme disait Lange, pour réaliser le système de planification. Maintenant, on l'a, c'est les GAFAM qui le font. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de se réapproprier la technologie des GAFAM, puis on va faire ce que, t'as Paul Mason qui parle d'un post-capitalism, Schneerseck, dans son manifeste accélérationniste, essentiellement, c'est le même argument qu'il va reprendre. Un autre, Aaron Bastani, parle du « fully automated luxury communism », donc un communisme automatique, hein, qui repose finalement sur une reprise complètement critique du développement technique contemporain, puis qui repose finalement sur les prémisses épistémologiques hayekiennes. Hein. De manière assez étrange, par contre, si on suit bien l'argument hayekien, il aurait dû être en mesure de démolir également l'économie néoclassique. Hein? Parce que Hayek est un antirationaliste. Si on le suit ici, les néoclassiques sont des rationalistes. Hayek dit toute tentative d'utiliser la raison, ça mène au totalitarisme. Les néoclassiques, ce qu'ils vont faire, c'est de reprendre seulement l'argument le marché, c'est un algorithme. Donc, si c'est un algorithme, on peut le programmer. Puis ça va donner lieu, les Walrasiens et les néoclassiques vont se muter en ingénieurs de marché, ce qu'on appelle l'ingénierie de marché. C'est essentiellement la réplication, la reprise des arguments néoclassiques dans le cadre des techniques d'ingénierie de marché, d'une part. Puis d'autre part, l'argument hayekien va être repris par les technocrates, les gestionnaires. Herbert Simons va directement s'inspirer de Hayek pour formuler sa thèse de la « bounded rationality », la rationalité limitée. Comme on est incapable de comprendre le processus dans son ensemble, il faut le décomposer, puis utiliser des machines pour aider notre processus de prise de décision. Donc, les dés sont pipés, le courant néoclassique va pouvoir s'en sortir. Alors que, d'un point de vue hayekien, c'est pas possible. Donc, les néolibéraux, ils vont justement utiliser les arguments d'Hayek pour relégitimer le marché dans un contexte où la forme institutionnelle détruit le marché. Là, une corporation, une organisation, son mode d'accumulation, c'est en détruisant des marchés, pas en créant des monopoles. Donc, dans le domaine de l'ingénierie financière, tu as Eugene Fama qui va postuler la théorie des marchés inefficients. Hein, qui repose sur l'idée, finalement, que le prix d'une action, ça représente l'ensemble des informations qu'on peut retrouver dans le marché sur une action. Puis cette théorie-là va être opérationnalisée dans le modèle Black-Scholes. qui sert au pricing des options, qui est un algorithme qui permet d'établir le prix des actions, qui va être utilisé au marché dans la bourse de Chicago en 1973, qui va apparaître en même temps que les Américains déréglementent les taux de change. Donc, parce qu'on a une machine qui permet finalement de réguler de manière non politique la monnaie. Hein? Même chose pour la corporation. Hein? L'argument hayekien va être repris pour dire une corporation, ce n'est pas un entrepreneur, parce que ce n'est pas un individu, ce qui est le fondement de l'économie politique classique, c'est l'entrepreneur individu bourgeois. Comment est-ce qu'on fait pour la justifier? Ça va être la théorie de l'agence qui va dire, en gros, la firme, c'est une fiction juridique. Hein? C'est un argument purement nominaliste. Donc, s'il s'agit d'une fiction juridique, qu'est-ce qu'est une firme? C'est un nœud de contrat, c'est un ensemble de contrats. La corporation, ça n'existe pas. La corporation n'existe pas de la même manière que la société n'existe pas. Ce ne sont que des contrats. Donc, ce qu'on retrouve dans ce processus d'automatisation, des mécanismes de prise de décision, des mécanismes financiers de prise de décision, c'est l'actuel développement de ce qu'on appelle le high-frequency trading, le trading à haute fréquence, qui est utilisé à des fins de régulation sociale. C'est-à-dire, quand on parle justement de régulation algorithmique, c'est essentiellement l'application de ce qu'on retrouve dans le high-frequency trading à des fins de régulation sociale. Donc, on utilise des algorithmes auto-apprenants pour réguler la société de manière préemptive ou préventive et non préventive. Hein? C'est-à-dire qu'on est dans un monde de corrélation. Donc, on n'a pas besoin de connaître les causalités, on n'a qu'à agir sur les effets. Hein? C'est ce qu'on retrouve. Attendez un peu. Ah, je ne l'ai pas mis ici. Mais dans un ensemble de mesures de politique publique à l'heure actuelle. Si vous regardez ce qui se fait par la Banque mondiale, l'ONU, etc., toutes les politiques de développement durable sont fondées maintenant sur l'utilisation des algorithmes qui visent non plus, finalement, autrefois, on pourrait dire, bon, on va faire du développement durable pour aider les pauvres ou régler les problèmes environnementaux en agissant sur les causes. Maintenant, il s'agit de mettre des capteurs un peu partout dans le monde, puis déplacer les populations qui sont les plus à risque, par exemple, d'être victimes d'une tornade, d'un ouragan ou peu importe. Hein. Donc, on agit de manière préemptive et non plus préventive. On la retrouve, justement, dans les développements des villes intelligentes et compagnie, qui en a même une à Toronto, qui est la possession de Google. Google a ouvert un quartier... construit un quartier qui fonctionne selon ces mécanismes-là. Il s'agit en gros de gérer en temps réel l'anthropocène. Ces projets-là, ce qui est paradoxal, c'est que, je ne sais pas si paradoxal, mais essentiellement, ça va favoriser le monopole des GAFAM de ce monde, parce que la seule manière dont tu peux faire fonctionner tes machines de préemption, c'est en utilisant les données de Google, Amazon, Facebook et compagnie. Donc, tu es dans un modèle de développement durable qui sert à l'accumulation des grandes corporations. Ce qui est plus pernicieux en plus, c'est que tu te retrouves avec des théoriciens postmodernes qui en font la promotion. Si vous lisez Donna Haraway, Bruno Latour, à l'heure actuelle, sont tous dans les théories de l'anthropocène, puis disent que c'est merveilleux parce qu'avec les nouvelles technologies, on observe finalement une hybridation entre le vivant, le non-vivant, l'animal, la machine, etc., ce qui était les fondements de la théorie de Weiner. Alors, on est sorti des dualismes hérités de la modernité, hein, puis on peut être en mesure finalement de gérer l'anthropocène sans utiliser des causalités, hein, parce que le but, c'est d'utiliser la corrélation. Si vous regardez justement ce que dit Latour dans ses travaux contemporains sur l'écologie politique, il va dire il faut maintenant se faire à l'idée que la notion de société, c'est l'ennemi de toute pensée politique. Je cite, il dit faire la promotion d'une nouvelle école de pensée qui pourrait prendre pour slogan « La société n'existe pas ». Donc, c'est le même slogan que les néolibéraux. Parce que dans sa théorie, finalement, elle est fondée sur un aplatissement ontologique de tous les niveaux de réalité. C'est-à-dire, tout le monde est réduit à un actant. Donc, la nature, l'humain, les machines, les animaux sont tous ramenés sur le même plan ontologique. D'ailleurs, Latour va dire, les sociologues ne cherchent-ils pas de midi à 14 heures en construisant du social avec du social ou en maçonnant ses fissures avec du symbolique, alors que les objets sont omniprésents dans toutes les situations dont ils cherchent le sens? Donc, les objets se trouvent à opérer la médiation entre les acteurs, puis entre les sujets sociaux, et à occuper le rôle d'un sujet, donc ce qu'il appelle actant. On est dans le stade à peu près suprême du fétichisme de la technique, dans la mesure où Latour encore dit hein, les objets font quelque chose, ils ne sont pas seulement des écrans ou les rétroprojecteurs de notre vie sociale, leur seule fonction n'est pas de blanchir l'origine sociale des forces que nous projetons sur eux. Donc, ce sont des acteurs. Dans la mesure où, de toute façon, c'est l'opérationnalisation de l'ontologie deleuzienne. Donc, l'ontologie donc relationnelle ou plate, finalement, qui aplatit tout sur le même pied d'égalité. Ça sert, finalement, de base pour bon, les nouvelles politiques publiques, notamment dans le domaine de l'environnement. Si vous voulez voir le Breakthrough Project de l'ONU et compagnie, ben, ça s'appuie sur ces prémices-là. De toute façon, parce que effectivement, dans selon cette sociologie-là, la société, l'État, le marché, la technique, la corporation, tout ça n'existe pas, il n'y a que des acteurs. Moi, j'ai le temps pour mon dernier point. Pour ramener ça finalement au plan théorique et au plan mais aussi plus empirique de ce qui se passe dans les développements actuels à Montréal du développement de l'intelligence artificielle, mais au plan théorique, je pense j'avais dit bon mais c'est la différence, on sait le passage de la dialectique à l'organisation, mais c'est ce qui veut pas dire qu'on peut pas utiliser des théoriciens dialectiques pour essayer de comprendre ce qui est en train de se dérouler, notamment je m'appuie, je réfléchis à partir des travaux de Lewis Mumford, qui lui-même, bon, fondait sa dialectique sur Vico. Hein. Mais aussi d'Harold Innis, qui fait une théorie des empires à l'ère des rapports entre empire et communication. Puis leurs travaux m'apparaissent complémentaires dans la mesure où ils s'appuient sur justement une critique dialectique de la technique dans la modernité, puis un rejet de la conception de la technique présentée comme neutre, hein, qui, dans l'ensemble des discours sur l'intelligence artificielle, c'est l'usage qui détermine le caractère normatif et non pas, certains biais inhérents à la technique même. Puis ils rejettent également, ce qui est fondamental ici, selon moi, une conception de l'être humain qui est compris comme « tool-making animal ». Pour, à la fois pour Mumford et pour Innis, le fondement de l'être humain, c'est un être social, c'est un être de langage. Hein? Mumford commence justement en expliquant que la principale technique humaine, c'est le langage. C'est le langage qui nous permet finalement d'avoir une connaissance de soi, du monde et des autres. Donc, c'est le symbolique qui est le fondement de l'être humain. Puis tout le développement de la technique moderne, c'est l'appropriation matérielle et symbolique à des fins de puissance puis de concentration de la connaissance. Hein? Donc, le développement de la technique, elle vise à moderne puis contemporaine, à créer des monopoles de la connaissance qui reconfigurent la manière dont on construit puis on comprend la réalité. Chez Innis, c'est assez clair, il va dire toutes les techniques, finalement, ont des biais à la fois soit spatiaux, hein, de l'espace ou du temps. Hein? Il dit le propre, finalement, des techniques dans la modernité, c'est de détruire l'espace puis le temps. Donc, de produire un monde strictement présentiste. Mumford va parler justement, on va dire, à partir de Mumford, on va dire le capital, hein, c'est une méga-machine. Son concept, c'est une méga-machine. Dans la mesure où, selon Mumford, la machine, ce qu'elle veut, c'est reprogrammer l'ensemble des institutions sociales, juridiques, historiques qui sont au fondement de la société. Hein. On pourrait dire le capital, c'est une machine sociale, hein, de laquelle découlent des machines techniques. Donc, en termes hegeliens, hein, le capital trouve toujours devant lui des formes sociales qui ne sont pas posées par lui-même, mais en se les appropriant, il les transforme pour faire ses propres présuppositions. Donc, le capital a trouvé dans la science, la technique, un matériau sous la forme d'une présupposition qui permet son expansion, mais cette présupposition n'était pas nécessairement posée par lui. C'est ainsi, on peut dire que la science peut devenir technoscience. On va dire, en ce sens-là, le capital, son essence est machinique, puis toute machine peut être décomposée en algorithme. Donc, l'algorithme du capital, il repose sur la capacité d'actualiser des bénéfices futurs dans le monde, dans le moment présent. Donc, qui fonde un régime présentiste. Donc, l'algorithme du capital, Il repose sur quoi? Sur la capacité de quantifier l'inquantifiable. Dans la mesure où il est en mesure de transformer l'ensemble de la vie sociale en flux de revenus, qu'il est possible de s'accaparer. D'ailleurs, juste petite parenthèse, à l'heure actuelle, la firme qui s'appelle BlackRock Capital Management, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un fonds, c'est une firme qui gère des fonds de pension, un fonds indiciel. Il gère 7 milliards de dollars en actifs en ce moment. C'est deux fois le PIB de la France, c'est le tiers du PIB des États-Unis. Ils sont en ce moment en position de risque systémique. Ils sont en mesure d'accumuler autant d'argent parce qu'ils ne sont pas réglementés par les banques, parce que c'est un fonds. Ils reposent sur quoi? Essentiellement sur une plateforme informatique qu'ils ont baptisée Aladdin. Comme Aladdin. Donc, ça lui permet d'analyser des milliards de dollars d'actifs. Puis, en même temps, le gouvernement américain lui a demandé pendant la crise d'analyser les portefeuilles hypothécaires de Fannie Mac et de Fannie Mae, Fannie Mac et Freddie Mac. Donc, il audite aussi les banques dans lesquelles il possède des actifs. Cette entreprise investit dans les principaux technologiques, donc Facebook, Google et compagnie. Il a même été question un bout de temps d'un joint venture avec Google pour améliorer les capacités algorithmique de son processus de prise de décision, qui est essentiellement un logiciel de gestion de risque. Donc, c'est une firme financière, mais c'est une firme technologique, dans les faits. Donc, on voit là, ici, que le capital, c'est la capacité de quantifier n'importe quoi à partir d'une puissance de calcul automatisée. Sinon, on peut dire, le code remplace la loi. Puis, dans le contexte actuel, pourquoi est-ce qu'on est dans cette forme-là? Bien, essentiellement, c'est une résultante dans le cas de BlackRock, mais dans le cas aussi des Google et compagnie. Leur puissance, bien, résulte, elle apparaît dans le contexte de la dernière crise financière. Dans la mesure où, dans un contexte où on se trouve avec les banques centrales ont mis des taux d'intérêt négatifs pour assurer la croissance et la relance. Le capital financier s'est redéployé dans le secteur spéculatif des hautes technologies parce que c'est là qu'il pouvait potentiellement aller chercher du risque. Puis ça, ça a été appuyé, en plus, consolidé par un nouveau discours, un nouveau hype, qui va être celui de la quatrième révolution industrielle. Donc, on est dans un contexte de stagnation qu'on appelait, à l'époque, on débattait à savoir si on est en stagnation séculaire ou en reprise sans croissance. Bien, essentiellement, le buzzword qui est apparu, c'est celui de la quatrième révolution industrielle, donc Big Data, intelligence artificielle, Internet des objets, etc., qui est devenu une espèce de convention d'interprétation. C'est-à-dire, on peut mettre notre argent là. Puis, tout le monde a participé à la construire. Même, puis c'est là où c'est intéressant, les dirigeants des universités. La solution pour nos dirigeants universitaires ici au Québec là, à la crise économique, c'est d'accentuer justement le rapprochement entre les universités et les grandes entreprises. Vous avez une citation de Suzanne Fortier qui est rectrice de l'Université McGill. Donc, en 2016, elle-même fait partie du World Economic Forum où se déploie tout le discours sur la quatrième révolution industrielle. Elle dit « Les universités et les entreprises devront donc plus que jamais travailler en collaboration. De leur côté, nos gouvernements devront favoriser le développement d'un climat d'affaires plus propice à l'innovation. Nous pouvons jeter les bases de la quatrième révolution industrielle au Québec en multipliant les partenariats de recherche et en offrant à la nouvelle génération la possibilité de mettre en œuvre ses idées et de participer à la recherche et au développement au sein des entreprises, et c'est dès le premier cycle de leurs études. » Bien, essentiellement, ce qu'on est en train de faire ici, c'est d'arrimer la stratégie industrielle sur la stratégie des GAFAM. Je l'ai-tu ici? Ah, c'est ça. Ça, c'est un tweet, justement, qui avait été fait par l'ex-PDG de Google, à la suite de l'annonce de Justin Trudeau qui disait qu'il allait créer des grappes industrielles un peu partout au Canada. Bravo, le Canada est très intelligent de ce qu'il appelle quadruple down, donc de faire la liaison entre le gouvernement, les universités, les grandes corporations et les start-up, ce qui est le fondement justement de la stratégie. Je vais vous montrer un peu. J'avance un peu trop vite. Ça ne sera pas long, juste revenir. Ben, justement, la stratégie de développement, de rapprochement. des universités et des entreprises. Ben, on a ici une pub d'Université de Montréal, qu'ont en commun Google, Facebook, Université de Montréal. Je l'ai mis pour Yves-Marie et ses étudiants qui sont à l'Université de Montréal, mais on n'est pas mieux à l'UQAM. Nous aussi, on veut le pactole. C'est une conférence de la rectrice qui, comment réussir la quatrième révolution industrielle, essentiellement, en mettant au service nos... Surtout nous, là, en sciences sociales, on va aider à accompagner. C'est Eric qui va parler de ça tout à l'heure. Donc, la stratégie québécoise de recherche et d'innovation qui a été lancée il y a 2 ans, va réserver 100 millions sur 5 ans à la recherche, au soutien d'entreprises et démarrage pour la création d'une grappe industrielle qui est consacrée à l'IA. Bon, j'ai ici les chiffres. En gros, si vous calculez, c'est à peu près 1 milliard de dollars en fonds publics qui est jeté là-dedans. Juste pour vous montrer ça, ces petites diapositives-là, ce qui est plus pernicieux, c'est que ça vient finalement c'est l'outil de communication publicitaire qu'utilise le gouvernement via Montréal International pour attirer les capitaux étrangers. Montréal International, qui est finalement dirigé par Hubert Bolduc, qui est l'ancien spin de Bernard Landry. Hein? Donc, on se rappelle que Bernard Landry avait participé aussi à la mise en place des trucs sur le numérique, la cité du multimédia, puis qui avait fait beaucoup à l'époque la promotion du coefficient bohémien québécois. Donc, il reprenait les thèses de Richard Florida. Bien, ici, ils sont mises en pratique. C'est la mise en pratique des thèses de Richard Florida qui sont également, on pourrait dire, amalgamées avec les théories néo-schumpeteriennes sur l'innovation, celles de Leiderhoff et Eskovitz qui avaient théorisé la synergie, le quadruple, ils appelaient ça la triple helix, c'était la fusion entre l'université, l'entreprise et les corporations. Ils rajoutent une quatrième qui est l'environnement culturel. Donc, c'est le branding, l'acceptabilité sociale, le fait d'avoir des créateurs, des artistes, etc., participent au cycle de l'innovation. Ce qui peut expliquer aussi, Eric va en parler, tout le crémage qui est fait autour de l'éthique et la gigantesque campagne de propagande qu'on observe dans nos journaux, dont les cahiers dans Le Devoir qu'il y a à chaque mois pour nous faire. C'est clairement une stratégie de promotion industrielle qui est orchestrée par les universités qui payent pour mettre les articles là-dedans. Donc, on est en train de dire, finalement, au capital étranger, voici ce qu'on vous donne. On a des investissements publics. On voit ici qui est ici. Essentiellement, c'est tous les grands joueurs. Les GAFAM, IBM et compagnie sont tous ici. Ce qui est merveilleux, c'est qu'ils peuvent bénéficier du crédit d'impôt qui va de l'ordre de 30 % du salaire des employés. Donc, 30 % du salaire et beaucoup d'autres incitatifs majeurs. Donc, on est finalement un paradis fiscal pour une fiscalité avantageuse pour ces grandes firmes-là. Il s'agit d'une belle stratégie d'externalisation des coûts de recherche pour les GAFAM qui utilisent la recherche financée publiquement pour la privatiser par la suite sous forme de brevets. C'est assez simple. Tu lis la directrice du laboratoire dirigé par, financé par Facebook, Joëlle Pinault, qui est à McGill, qui travaille pour Facebook, a dit « Le but dans tout cela n'est pas d'améliorer les produits de Facebook, mais bien de faire de la recherche fondamentale sur l'apprentissage machine. » Tout le problème ici, c'est que la condition de possibilité de sa recherche, c'est d'avoir accès aux data de Facebook. Puis ce que ne voient pas ces chercheurs-là, c'est soit par aveuglement volontaire ou naïveté, c'est que ces grosses corporations technologiques ont tout à fait intérêt à développer un bassin de talents dans le domaine parce qu'ils sont à l'heure actuelle en compétition pour s'approprier ce qu'ils appellent des talents, que ce soit sous forme de cerveau, mais aussi de brevets. La multiplication des startups et compagnies vont tous, pour la plupart, s'effondrer, mais ils vont pouvoir se les réapproprier par la suite. Donc, c'est du communisme du capital. Le capital produit son commun. On peut dire, il s'agit, si on regarde les diapos de Montréal International, c'est une stratégie de soumission à l'Empire. D'ailleurs, Innis, qui est un historien canadien, mais qui s'est intéressé aux empires, puis notamment à la perte de la souveraineté pour lui du Canada contre l'Empire britannique, il disait que toute technologie, d'une certaine manière, est biaisée, mais elle favorise ou elle permet ou c'est une condition de possibilité pour le transfert des pouvoirs. Hein? Il va dire, en gros, ben, si tu regardes la révolution moderne, ben, sa condition de possibilité, c'est l'imprimerie, puis elle rend possible, finalement, un ensemble d'institutions puis de classes sociales qui vont créer quelque chose comme un monopole de la connaissance. Ben, là, ce qu'on observe, c'est le passage, finalement, de la dialectique à l'organisation, de la souveraineté de l'État à la souveraineté du capital, parce qu'il structure, finalement, les manières dont on comprend la réalité. C'est ce qu'il appelle monopole de la connaissance. Donc, il applique les outils de l'analyse économique au développement culturel ou au développement des idées. Dans la mesure où on pourrait dire les systèmes automatisés qui sont développés par les GAFAM ont transformé le savoir en données numériques, donc en connaissances opérationnelles, qui produisent un pur savoir machinique qui rend complètement superflu parce qu'inutile toute dimension critique, synthétique, qui est au fondement de la connaissance. Hein. Donc, c'est plus nécessaire. D'ailleurs, les grosses parts de marché qui jouent dans les GAFAM à l'heure actuelle, c'est le marché de l'éducation. Hein. Facebook, Zuckerberg a fait une fondation qui vise à créer un apprentissage personnalisé dans les écoles publiques. Donc, c'est casser, finalement, les professeurs, puis faire d'éducation personnalisée auprès des étudiants via les outils technologiques. Google et compagnie aux États-Unis sont en train de se battre, finalement. IBM aussi développe beaucoup des logiciels dans le domaine, bon, les MOOC et compagnie. On retrouve ça au Québec. Si vous allez lire le cadre du plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur qui a été dévoilé l'année dernière, elle vise à adapter, bon, en créant des compétences pour le 21e siècle, pour les individus, notamment hein, en donnant, puis on se vante de ça, des cours à l'intelligence artificielle dès la première année. Puis essentiellement, si la logique de personnalisation de l'éducation, elle va encore plus loin. Parce que ces prémices scientifiques, bon, mais c'est, à l'heure actuelle, c'est la neuropédagogie, je ne sais pas si vous connaissez, mais la neuropédagogie, c'est le ministre de l'Éducation en France qui s'appelle Jean-Michel Blanqui, qui est en train de faire la réforme de l'éducation à partir des prémices de la neuropédagogie, qui vise essentiellement les thèses de la neuropédagogie, c'est-à-dire le cerveau, c'est un ordinateur, le cerveau est plastique, donc on peut le reprogrammer. Donc l'idée est justement d'enlever les éléments, tous les facteurs d'explication environnementale, externe, sociale, dans l'explication du cheminement ou l'éducation des étudiants et des élèves, pour en faire une éducation personnalisée au moyen des machines, essentiellement pour les adapter au nouveau monde qui sera celui de la tyrannie de l'intelligence artificielle. Ah, ça, je ne l'avais pas montré. Ça, c'est le modèle de la quadruple hélice dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pas vraiment intéressant, mais ça simule une espèce de D'ADN, oui, c'est ça. Donc, on est tout le temps dans la naturalisation. Donc, on parle de l'écosystème de Montréal, etc., de l'intelligence artificielle. Une bulle, bien, effectivement, on en parle très peu dans nos journaux, mais si vous voulez lire les journaux canadiens anglais, bien, ils ont enquêté un peu sur Element AI, qui est le start-up qui a été créé par Ben Gio et Jean-Nicolas Gagné, un ancien de Google. Puis, on se rend compte... Récemment, là, ils viennent d'être sauvés par la Caisse de dépôt qui a mis 200 millions dedans là, parce qu'ils ne génèrent pas de revenus. Ils ont généré 10 millions en revenus. Ils ont des actifs, ils ont des financements à hauteur de 200 millions. Essentiellement, ils ne produisent rien. C'est une gigantesque bulle spéculative. Puis le gouvernement a mis énormément d'argent là-dedans, donc a intérêt à ce que la bulle se poursuive parce que quand ça va s'éclater, bien, on n'a aucune garantie d'avoir de l'argent là-dedans. Et dans les fonds qui sont développés, il n'y a absolument rien. Donc, probablement une bulle, mais qui va être accaparée par la suite par les GAFAM de ce monde, puis notre petite bourgeoisie comprador nationale. Donc, si vous regardez qui est sur l'ensemble des conseils d'administration de ces patentes-là, bien, vous retrouvez Hélène Desmarais, qui gère des actifs de 300 millions en fonds publics. Puis c'est elle qui donne l'argent. Puis tout est concentré au sein de Element AI qui draine tout l'écosystème, d'une certaine manière. Bon, juste pour terminer, ben, c'est une citation de Jacques Ellul, parce que ça fait référence finalement à l'éducation, mais il dit, hein, « Ce qui rend la technoscience fatale, c'est votre croyance qu'elle est, votre gloriole pseudo-prévisionniste et la confirmation de l'homme que vous êtes en train de réaliser. Ben, » Essentiellement, il dit, ben, « On produit des individus qui ne connaissent que ça, donc ils vont vouloir ça. Hein? » C'est là le plus grand danger, je pense, de toute cette espèce de construction autour de l'intelligence artificielle. Mais je vais laisser Eric poursuivre sur la question justement de l'éthique.
Merci. Je vais prendre seulement 30 minutes par la suite qu'on prendra une pause là, pour parler maintenant de la question de l'éthique de l'intelligence artificielle. Puis j'ai étudié ma présentation « Misère de la philosophie à l'ère des systèmes ».« Misère de la philosophie », c'est bien sûr un clin d'œil à Marx qui, déjà en 1847, avait attaqué Proudhon en disant que Proudhon ne faisait qu'une critique petite bourgeoise des catégories du capitalisme plutôt qu'une vraie critique. C'était méchant pour Proudhon et un peu injuste, je le pense, mais quand même, on peut reprendre la même critique aujourd'hui en disant qu'on assiste au déploiement d'une misère de la philosophie qui se présente à nous sous la forme des discours des éthiciens, de ceux qui font de l'éthique dans les universités, dans les comités d'éthique ou dans les chaires d'éthique, le plus souvent d'ailleurs à partir d'une approche, disons-la, libérale, inspirée de la pensée anglo-saxonne ou anglo-américaine, Rawls pour ne pas le nommer, qu'on appellera ici « philosophie de l'Empire », qui est devenue hégémonique dans nos universités de plus en plus, puisque nous sommes une succursale de l'Empire américain. Donc, nos universités, aujourd'hui, engagent de plus en plus des Rawlsiens, disons-le. Et c'est Marcuse, d'ailleurs, dans L'homme unidimensionnel, qui disait qu'il y avait un grave danger que dans les universités, la philosophie soit attaquée, mais il précisait pas seulement la philosophie, mais en particulier la dialectique. Et que le jour où la philosophie analytique allait détruire la dialectique, ce serait un jour très grave pour l'enfermement dans un monde fort clos. Donc, aujourd'hui, la tradition dialectique, bon, évidemment, les années 70, c'était de marxiste, léniniste, althusserien, ce genre de choses-là qui étaient hégémoniques, mais aujourd'hui, on peut dire que dans la philosophie politique, partout, à part les discours postmodernes, il y a beaucoup, beaucoup de théories d'inspiration rawlsienne, et ce sont ces théories de la justice rawlsienne qui sont mobilisées par ceux qui font des discours soi-disant éthiques, qui vont justifier, qui vont servir de discours de légitimation pour le développement de l'intelligence artificielle. C'est ce que j'ai appelé, donc, « misère de la philosophie 2.0 ». J'ai pris quatre exemples, j'aurais pu en prendre beaucoup plus, mais j'ai pris quatre exemples pour vous montrer de quoi je voulais parler. Le premier, c'est un article de Jocelyn McClure qui était publié en 2017, le 2 novembre, dans Le Devoir, qui s'appelle « Montréal peut être à l'avant-garde de la réflexion éthique sur l'intelligence artificielle ». Avec une photo de Stephen Hawking, d'ailleurs. Dans cet article-là, l'argumentation de McClure est le suivant. Stephen Hawking, Elon Musk, Nick Bostrom et plein de figures comme ça nous ont mis en garde contre les risques existentiels, les menaces de l'intelligence artificielle et le danger que ça pouvait représenter, notamment le développement d'une intelligence artificielle générale, la Terminator qui prendrait le contrôle. Bon, il y a toutes sortes de figures publiques qui se sont inquiétées de ça. Jocelyn McClure nous dit, ça c'est de la science-fiction, ça n'arrivera pas. Selon ma compréhension des choses, dit-il, on n'en est pas là. La preuve, j'en ai parlé avec Joshua Bengio et Joël Pinault, qui me disent qu'au fond, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir, et moi, je leur fais confiance parce qu'ils connaissent ça, eux, la science. Donc, Jocelyn n'est pas inquiet parce qu'il a parlé avec Joshua. Ce qu'il risque d'y avoir, donc, ce ne sera pas un problème général, dit-il, ce sera plutôt des applications localisées de l'intelligence artificielle. Votre voiture va se conduire toute seule, votre laveuse va parler avec votre iPhone, ce genre de choses. Donc, ça va être localisé et il n'y a pas trop de danger de point de vue global. Donc, il n'y a pas besoin de faire une critique globale, il suffit plutôt de se déplacer a posteriori. Il le dit lui-même dans une entrevue avec Carl Reddino-Pazzarelli dans Le Devoir, il dit « l'éthique arrive en deuxième ». En retard, dit-il. Donc, d'abord, il y a le développement et l'éthique arrive en deuxième. Et ce qu'elle fait, c'est s'occuper de gérer, au fond, les risques et les bénéfices, de balancer les risques et les bénéfices. Donc, d'une part, évaluer les risques et essayer de nous prémunir contre les risques, toujours de manière localisée, faire du problem solving, pragmatiquement, ou encore s'assurer que les bénéfices soient distribués à tout le monde et que personne ne soit exclu en bon rawlsien. Hein, s'il y a des robots, il faut que tout le monde puisse avoir son morceau de robot, hein, évidemment. Donc, nous ne voulons pas exclure personne de ce monde robotique. Alors, quels sont ces problèmes? Quels sont ces risques? Il y en a toutes sortes. L'opacité des processus. Hein, des fois, il y a des prises de décision, puis on ne sait pas comment ça s'est fait. Il faut faire attention à ça. Il y aura un danger peut-être d'opacité. Des cyberattaques. La protection des données, bonjour Desjardins, la protection de la vie privée, les biais discriminatoires chez les programmeurs, parce qu'on sait que les robots sont encore pour le moment programmés par des êtres humains, quoique ils se programment de plus en plus eux-mêmes. Mais le danger, c'est qu'on ait un programmeur qui soit, attention, peut-être sexiste ou raciste. Et à ce moment-là, il va nous faire des robots qui vont être sexistes ou racistes. Et donc, ce qu'il faut, c'est s'assurer que les robots ne soient pas sexistes. Et donc, nous aurons des robots non sexistes ou des robots non racistes. Et Jocelyn va s'assurer de cela. Il va s'assurer qu'au fond, les robots, lorsqu'ils vont prendre le monde en charge, vont inclure tout le monde. Donc, tout le monde pourra participer au monde des robots, peu importe donc son genre ou son appartenance culturelle. Bon. Également, la fiscalité. Va-t-il falloir taxer les robots lorsqu'ils auront fait muter le monde du travail? Va-t-il falloir mettre en place le revenu minimum garanti, ainsi de suite? Donc, vous voyez, toutes les questions qui sont posées sont toujours des questions a posteriori. On accepte d'abord la déferlante technique, le développement illimité et autonomisé de la chose, mais dans un deuxième temps, on essaie de venir essayer de mettre des cadres ou des diachylons pour padder, passez-moi l'expression, certains des pires développements. Heureusement, je cite Jocelyn McClure, les acteurs de l'IA sont de façon générale sensibles à ces questionnements. Je suis quand même chanceux pour nous parce qu'ils s'en préoccupent. Une volonté s'affirme même pour que Montréal soit à l'avant-garde de la réflexion éthique sur l'IA. Un forum sur l'intelligence artificielle responsable va même être tenu le 2-3 novembre 2017. Bon. C'est réglé, ça va, quoi. Ils sont sensibles aux... Non, mais ils sont sensibles aux problèmes. Donc, ils vont régler les problèmes. Puis, au début, il va peut-être y avoir un glitch ou deux, un Google Car qui va écraser quelqu'un, c'est déjà arrivé. Mais un jour, ça va être parfait, puis ça va être fluide, et ça va fonctionner grâce au travail des éthiciens de l'Université de Montréal ou de Laval ou de Humania, ici à l'UQAM. Chaque université a créé sa petite tentative d'aller siphonner le fric. Bon, c'est Laval qui l'a eu, 7,5 millions de dollars pour la recherche en éthique. C'est Laval et UDM qui ont eu le pactole. Donc, l'idée, c'est, grâce à eux, ils vont nous assurer de régler les problèmes. Un autre exemple, évidemment, c'est la déclaration de Montréal, qui a été initiée par Marc-Antoine Dilac, un autre Rawlsien, qui est à l'Université de Montréal. Alors, eux, ils ont fondé ça sur 10 principes, je vous les cite, le bien-être, le respect de l'autonomie, le respect de la solidarité, le principe de participation démocratique, le principe d'équité, c'est-à-dire que l'IA doit contribuer à réaliser une société juste et équitable, l'inclusion de la diversité, ce que je disais tantôt, le principe de prudence, le principe de responsabilité et le principe de développement soutenable, donc l'environnement. Et donc, ces 10 principes de la déclaration, c'est un peu... Je vais l'enlever parce que ça bouge tout le temps, ça distrait les gens. Il est aussi, d'ailleurs, Dilac, un collaborateur du MILA de Bengio et de l'Observatoire sur les impacts sociaux de l'IA. Donc, autrement dit, il est partout et c'est lui qui a initié cette fameuse déclaration de Montréal. Et ça, c'est présenté en plus comme un argument de vente pour Montréal, de dire, regardez, venez chez nous, justement, dans notre écosystème, nous avons non seulement les meilleures universités, mais aussi les meilleurs éthiciens. Et regardez, on a en plus une belle déclaration. Donc, côté marketing, c'est génial pour vendre la ville de Montréal. Donc, voici mon deuxième exemple, la déclaration de Montréal. Mon troisième exemple, j'ai malheureusement pas de photo, mais vous allez le reconnaître, Dominique Champagne. Le metteur en scène Dominique Champagne s'est rendu dans une réunion le 29 janvier 2019 dans Le Devoir. Il disait vouloir une possible collaboration avec le MILA de Bengio, voulant s'associer à l'Institut pour développer une boussole environnementale qui permettrait de guider les choix environnementaux des citoyens. L'intelligence artificielle permettrait notamment de faciliter l'analyse du cycle de vie des produits ou l'empreinte environnementale des différentes actions. Donc, OK, là, vous avez ici la fameuse boussole environnementale ici, là. Et là, vous voyez qu'avant, on fait des grèves, mais là, on ne sait pas ce que ça donne, les grèves. Alors que si on avait ici un calculateur d'empreinte individuelle pour accompagner le changement. Et je vous cite Dominique Champagne. Avec la qualité du travail qui se fait ici, on espère développer la plus belle synergie possible, a-t-il expliqué. Donc, les écolos sont contents parce que l'intelligence artificielle va permettre de régler un problème éthique qui est votre empreinte carbone individuelle. Dominique est très content donc de ce que fait l'IA. Troisième exemple, c'est l'UNESCO qui, cette semaine, annonçait que l'IA va représenter une rupture anthropologique majeure, rien de moins, qui soulève des risques et donc, l'UNESCO va élaborer un cadre normatif pour encadrer le développement de l'IA avec des grands principes sans l'entraver pour autant. Hein, donc, il faut que ça se passe. Ça a l'air fatal. On ne peut pas réfléchir là-dessus. C'est inéluctable. Mais on va mettre des principes qui ne devraient quand même pas empêcher que ça se passe. Donc, les principes doivent être là, mais pas trop là, autrement dit. Donc, à quoi faudra-t-il faire attention? Tous les sujets qu'ils estimeront nécessaires, notamment la diversité culturelle ou de genre, encore une fois, des robots pas racistes, Ou encore la diffusion des savoirs et technologies, la fameuse fracture numérique. Il faudrait quand même pas qu'il y ait des Mexicains qui n'ont pas de robots ou des gens dans le sud, en Afrique ou au Soudan qui n'ont pas de robots. Donc, s'assurer que tout le monde puisse avoir des robots. Les algorithmes discriminatoires, les biais introduits par les humains. Bon, encore une fois, ce même genre de discours qu'on avait tantôt sur la discrimination et les biais des programmeurs. Bon, là, vous avez donc ici quatre exemples, je pourrais en donner 20 000 autres, du genre de discours auquel on assiste. C'est toujours le même. C'est toujours le même. C'est toujours des biais, la protection de la vie privée, la protection des données, la discrimination, le sexisme, le racisme. Mais vous voyez qu'il n'y a rien sur la critique globale du développement de la chose qui, elle, est toujours autorisée, souhaitée, même présentée comme inéluctable. Or, il y a un chroniqueur de l'actualité qui s'appelle Olivier Schmucker qui a publié un article et qui s'amusait du fait que la plupart des principes qu'on nous promet de défendre ont déjà été violés il y a longtemps. Protection de la vie privée, les gens ont des Google Home à la maison, les mécanismes de reconnaissance faciale sont mis en place. De quelle vie privée parlez-vous? Elle est déjà partie. Protection des données. Ai-je besoin de reparler de Desjardins? De quelle protection des données parlez-vous? C'est déjà foutu. Société juste et équitable. De quoi parlez-vous? La pétrolière Suncor a annoncé que 500 postes de camionneurs allaient être abolis dans les prochaines 6 années parce que c'est des camions automatiques qui vont transporter le pétrole. Bon, ben là, la société juste et équitable, elle est où? Ben, elle est déjà plus là. Donc, autrement dit, tous ces principes dont on nous assure qu'on va les défendre au présent et au futur, en fait, appartiennent déjà au passé parce que les robots sont déjà rendus beaucoup plus loin dans la dissolution de la société et de ses valeurs dont on prétend défendre des résidus, ce qui, en fait, est complètement soit utopiste, soit malhonnête, disons-le. Bon. C'est pourquoi, donc, je dis que cette éthique libérale formelle, défendue par mes collègues dans les universités, dans les départements de philosophie, est une misère de la philosophie qui conduit à être principalement un discours d'acceptabilité sociale qui justifie l'action des corporations, mais qui n'a pas de portée critique réelle. Nous sommes dans un monde de plus en plus un monde post-politique. Jean-Claude Michéa dit « La politique a été remplacée par le marché et par le droit individuel. » Et on pourrait ajouter aussi par l'éthique libérale des éthiciens. Et c'est l'université naufragée, l'université qui elle-même est passée d'une institution à une organisation, qui va s'occuper de cette division du travail. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'université qui va faire la recherche opérationnelle pour développer l'IA. Ça, c'est l'université du marché. Puis il y a l'autre université, l'autre côté, des droits individuels. La politique est remplacée par le marché plus le droit. Donc, il faut qu'il y ait une section de l'université qui va s'occuper, elle, de la recherche éthique, au bout du corridor, dans le même établissement que l'autre fabrique les robots. À l'autre bout, l'autre fabrique des arguments éthiques pour dire que c'est correct. Et les deux, d'ailleurs, travaillent ensemble. Et la même université produit, au fond, les deux bouts tient les deux bouts de la chaîne. Bon, c'est une belle collaboration. C'est ce que Cornelius Castoriadis, dans Les carrefours du labyrinthe, dans La montée de l'insignifiance, avait appelé le cache-misère de l'éthique. Cache-misère de l'éthique, c'est-à-dire que nous sommes, disait-il, dans une crise de la politique. Après que le 19e et le 20e siècle aient été les siècles de la politique, nous sommes entrés dans une régression, un effondrement de la politique, une privatisation de l'existence, un repli sur la vie individuelle. Et que reste-t-il dans le cadre de cette société post-politique? Ben, il ne reste pas grand-chose de la morale. C'est une sorte de néo-kantisme généralisé, c'est-à-dire on revient à l'éthique parce qu'il n'y a plus de politique. C'est une éthique sans politique. Et donc, c'est des grands principes abstraits. Le bien-être, l'inclusion, donc c'est des principes abstraits, OK? Et ou sinon, c'est une éthique purement privée, OK? C'est des choses individuelles, privées, grands principes abstraits, mais qui laissent intact dans le concret les mécanismes automatiques qui, eux, ont pris le pouvoir. Donc, c'est une éthique a posteriori, fondée sur des principes transcendantaux abstraits, idéalistes abstraits, mais qui, au fond, est impuissante, comme tu disais tantôt, hein, c'est toute puissance théorique, impuissance pratique. Donc, c'est une éthique absolument... c'est un cache-misère. Bon. Deuxième point de Castoriadis, la technoscience. Au début, grand optimisme à l'égard de la technoscience. Oups, 20e siècle, Hiroshima, Auschwitz, Nagasaki. Peut-être y a-t-il des problèmes? Doute. Doute, donc besoin d'un questionnement éthique, prolifération des comités d'éthique, des chaires universitaires d'éthique, non pas pour arrêter le développement technique, mais pour produire des semblants de réponses qui viennent enrober l'affaire, mais laissent le développement se poursuivre. Troisième point. Donc, autrement dit, la technoscience a engendré l'éthique, le cache-misère de l'éthique comme sa condition de poursuite, hein, pour gérer les doutes qu'elle engendre elle-même. Mais ça n'arrête pas le développement par ailleurs. Hein. Troisième point, crise des valeurs, crise de la philosophie, effondrement de la métaphysique, de ce qu'Heidegger appelait le paradigme ontothéo-logophallocentrique. Donc, la philosophie occidentale s'est effondrée et il y a eu une tentative de refonder dans le libéralisme post-totalitaire des nouveaux discours éthiques. On peut penser à Habermas, avec le paradigmatisme communicationnel, et bien sûr à Rawls, dont j'ai parlé tantôt, qui est aussi une forme de néo-kantisme. Donc, l'effondrement de la métaphysique, l'effacement du paradigme dialectique, laisse la prolifération de discours soit, bon, postmodernes ou libéraux anglo-saxons, et d'où ces théories, donc, qui sont absolument incapables de faire une critique du point de vue de la totalité globale du problème de l'IA, et qui vont donc nécessairement être conduites à avoir ce qu'on a vu tantôt, c'est-à-dire à produire des discours a posteriori totalement impuissants, et qui participent, au fond, du rejet de la politique. Parce qu'au fond, ils sont ce qu'il reste de l'éthique une fois qu'on l'a détaché de la politique. Ce qui est complètement, disons-le, et ça fait penser d'ailleurs au repli sur les éthiques de la conduite dans l'Empire romain. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, les stoïciens. Hein? C'est-à-dire quand il n'y a plus de politique, puis tu vis dans l'Empire, qu'est-ce qui reste? Une éthique individuelle. Parce que tu ne peux plus changer la politique. Donc, c'est exactement la même chose qu'on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire le développement d'une « philosophie », entre guillemets, qui n'est plus une philosophie parce qu'elle a réduit l'éthique à une chose individuelle et l'a arrachée à la dimension politique globale. Ce qui trahit complètement la mission fondamentale de la philosophie, parce que si on l'apprend chez Platon, l'éthique, elle est liée d'abord à une volonté de connaissance du cosmos, mais aussi à un projet de transformation du régime politique, de la constitution et des lois, et du mode d'acquisition économique. Il y a chez Platon une critique agressive, bon, évidemment chez Aristote la crématistique, mais chez Platon il y a une critique agressive de l'oligarchie, des politiques d'endettement, de la stratégie économique impérialiste, de la thalassocratie athénienne. Il y a toute une critique chez Platon de dire on ne peut pas rester dans le même mode de développement puis dans le même régime politique. On ne peut pas réduire l'éthique. Bien sûr, il y a une dimension éthique à la philosophie, mais elle doit se traduire par une transformation du régime politique. Or, c'est exactement ce qui est exclu dans la misère de la philosophie contemporaine. Il n'y a plus de transformation du régime qui soit envisagée. Or, dit Castoriadis, selon Aristote, la politique, c'est la science architectonique. C'est la science de toutes les sciences en ce qui concerne en tout cas les affaires humaines. La politique, c'est une science architectonique parce qu'elle se pose la question de savoir quelles sont les institutions les meilleures. Et le critère, selon Castoriadis, c'est est-ce que les institutions permettent ou ne permettent pas l'auto-institution de la société puis l'autonomie des personnes. Et c'est en fonction de ça qu'on devrait juger de est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait pas ça. Est-ce que ça contribue à construire les conditions de l'auto-institution ou non? Or, évidemment, cette question-là n'est pas posée, ce qui ne peut mener qu'à des bricolages éthiques a posteriori. Je cite Castoriadis, « Si la maison est mal construite, tous les efforts pour y bien vivre seront au mieux des bricolages insatisfaisants. Hein? » Donc, si on ne remet pas en question la construction de la maison, c'est-à-dire le régime économique, technique, politique, on ne pourra aboutir qu'à des bricolages. Or, c'est ce que nous faisons. Nous abandonnons la politique à des automatismes, et de l'autre côté, nous nous replions sur des bricolages éthiques où il n'y a aucune réflexion politique globale. Et donc, c'est l'abandon du décisif au profit du trivial, comme dirait encore Castoriadis, des grands principes transcendants, mais dont l'application concrète va laisser intact l'autodéveloppement de la technique. Donc, c'est une forme de démission de l'esprit critique, je le cite encore, devant les portes du pouvoir, une démission instituée de nos sociétés. C'est pourquoi il parle de cache-misère de l'éthique. Donc, on peut dire que les philosophes contemporains qui produisent ce genre de discours sont une situation de démission morale à l'égard de leurs responsabilités, non seulement à l'égard de la philosophie, mais à l'égard de la société. Chez Michel Freytag, une critique semblable, dans les textes qu'il avait écrits, notamment dans le naufrage de l'université sur la société informatique et le respect des formes, mais aussi des textes sur le développement des NTIC, comme on appelle ça à l'époque, une nouvelle technologie de l'information et de la communication. Freytag va dire que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est le développement d'un nouveau mode de reproduction de la société ou de constitution de la société, c'est-à-dire le déploiement du mode de reproduction opérationnel décisionnel. Et pour que le opérationnel décisionnel se mette en place, Maxime en a parlé un petit peu tantôt, il doit d'abord détruire les anciennes formes de régulation des pratiques sociales. Donc, il doit détruire la culture, le symbolique, les institutions et la politique. On peut même constater que Castoriadis ici, donc c'est une société post-politique, on va dire post-culturelle aussi. Il faut détruire la société concrète au plan culturel et institutionnel pour la décomposer et ensuite la recomposer par des machines. Donc, recomposer le lien social par un nouveau mode de régulation qui n'est plus synthétique et a priori, mais qui est a posteriori, par des régulations informationnelles, communicationnelles, dont l'intelligence artificielle fait partie. Mais à l'époque, Freytag déjà l'avait théorisé avec le développement de l'informatique ou même des technologies de la communication. Bon. Donc, on va décomposer, fragmenter, puis ensuite recomposer, une sorte de destruction créatrice. On décompose, on fragmente et on recompose en transformant tout en objets quantifiables que les algorithmes pourront calculer, ce que disait Maxime tantôt. Donc, cette décomposition-recomposition, Freytag l'appelle une nouvelle puissance d'organisation des rapports sociaux qui est autonomisée et qui est auto-finalisée. Elle devient sa propre... C'est un système qui décompose tout et recompose de manière autonome. Donc, c'est une automatisation, au fond, de la vie sociale, purement opérative, c'est-à-dire qu'elle ne répond plus à aucune finalité qui aurait été déterminée par la culture par la tradition, par des normes politiquement réfléchies. Hein, elle devient sa propre fin et elle produit son propre réel. C'est littéralement l'humanier. C'est-à-dire qu'au fond, elle est en train d'engendrer un simulacre dans lequel nous habitons tous de plus en plus. Et donc, ce qui va assurer la vie sociale, ce sont des organisations ou des machines qui vont lier entre elles, au fond, les différents atomes et qui vont assurer la compatibilité entre elles des différentes pratiques que plus rien ne lie a priori. C'est ça qui... Le nouveau lien va devenir un lien a posteriori, performé, si vous voulez, par la machine. Ceci implique aussi la destruction de l'ancien espace public politique abermacien, on pourrait dire, là, l'espace public, et son remplacement par un espace publicitaire où des polémiques vont agiter la doxa d'un coton ouetté à l'autre et vont éventuellement être remplacées par une autre polémique, puis une autre polémique, où plus, au fond, rien de substantiel ne formera l'unité de la société, puisqu'il n'y a que des productions communicationnelles éphémères qui vont tenir ensemble cette espèce de truc qui n'a plus de substance. Okay? Donc, c'est la communication qui va produire la société, mais au fond, derrière, il n'y a plus rien. Donc, chacun est atomisé, pris en charge par le dispositif communicationnel technique. Et au fond, ben, qu'est-ce qui va être le buzz de ce moment-là? Ben, God knows, ça va dépendre de ce qui, au fond, va, de ce qui attire le courant ou la tendance à ce moment-là. Donc, on est dans une doxa marquée par le mobilisme universel. On peut dire que les technologies de l'information et de la communication, dont font partie l'intelligence artificielle, sont devenues absolument centrales aujourd'hui parce qu'elles sont, au fond, la matérialisation de ce que Freytag avait théorisé sous le nom d'idéal type de mode de reproduction opérationnelle décisionnelle de la société. C'est une nouvelle forme de régulation. Et comme dirait Marx, tout ce qui était sacré est profané. Il n'y a rien qui peut résister devant ça. Tout va être décomposé et recomposé par ça. Tous les métiers, incluant, comme dit Marx dans le manifeste du Parti communiste, il n'y a pas une activité même la plus noble, même le métier de professeur, ou celui du médecin, il n'y a pas une activité même la plus noble qui va résister à sa décomposition puis sa recomposition par ce processus. C'est pour ça que Freytag va dire que l'éthique, les discours éthiques, ne sont qu'un sous-produit de cette mutation opérationnelle décisionnelle. L'éthique vient se placer, dit-il, en face des systèmes, hein, en face, dans une sphère éthique séparée, qui n'est qu'un sous-produit et un appendice de la mutation générale. Et d'ailleurs, la mutation générale va éventuellement la dissoudre elle-même, hein, parce qu'au fond, elle ne la questionne pas. Elle est à côté, ce qui fait qu'elle va nécessairement être entrée en dissolution elle-même parce qu'elle n'empêche pas le développement de la chose. Okay? Donc, elle est condamnée à l'impuissance. Ou alors, elle se réduit à une forme de propagande, c'est-à-dire que ça devient un argument de marketing pour dire, au fond, oui, regardez, le monde a été soumis à l'opérationnel décisionnel, mais il y a de l'éthique, donc tout va bien. C'est un peu ce qu'on a vu tantôt. En fait, c'est des discours ridicules. Complètement ridicule et infantile, qui, au fond, prétendent faire de la critique, mais alors laissent intact tout le problème. Bon. Par exemple, dans le développement des Google Cars, hein, vous avez... Et là, les philosophes libéraux anglo-saxons sont excités parce qu'ils peuvent mobiliser tous ces trolley problèmes qu'ils avaient fait pendant des années. Est-ce que le trolley doit écraser les gens sur la rail ou non? Bien là, vous avez ce genre de débat-là, à savoir, si j'ai dans ma voiture, hein, est-ce que la voiture doit tuer l'occupant ou écraser les enfants? Oh là là, beau problème éthique. Personne ne se demande si on doit faire des voitures qui se conduisent toutes seules ou si c'est la bonne chose à faire. Hein. La question devient simplement, du point de vue de l'usager, qui faut-il tuer? Bon, voilà. Autrement dit, on prétend encadrer un mode de développement éthiquement parce qu'on a d'abord renoncé à l'encadrer politiquement. Puis on a renoncé à le réfléchir politiquement. Freytag appelle ça les experts en transcendance. C'est des marchands de transcendance qui arrivent en disant « on a des principes », mais au fond, hein, dans l'opérationnalisation des choses, ça ne change rien. C'est pour ça qu'ils appellent ça une autonomisation et une extériorisation de la dimension éthique, qui est extériorisée puis autonomisée, par rapport à ce qu'il appelle une rationalité technico-sociale autorégulée. Rationalité technico-sociale autorégulée d'un côté, puis de l'autre côté, une sphère éthique extérieure qui a ses experts patentés et qui va bâtir des carrières universitaires, hein, puis d'ailleurs aussi de beaucoup de visibilité médiatique, donc la recherche des honneurs, hein, de se faire voir en disant « inquiétez-vous pas, nous, les philosophes, entre guillemets, on s'en occupe. Bon, » donc ça donne beaucoup de visibilité. Et il y a toute une logique aussi dans ça de dire « inquiétez-vous pas, on va consulter les gens, tout le monde va être touché par l'IA, donc on va... » La déclaration de Montréal a été faite dans un processus de co-construction démocratique où chacun des stakeholders qui peut avoir un impact de l'IA va venir présenter son truc, on va additionner ses préoccupations-là, puis au bout de la ligne, on va s'assurer que tout le monde soit content. Mais évidemment, la question qui n'est jamais posée, c'est « doit-on développer cette chose? » Ça, c'est jamais posé. Ça va de soi, c'est inéluctable. C'est pourquoi Freytag, je le cite encore, parle d'une irresponsabilité à l'égard de la réalité globale. On est irresponsable à l'égard de la réalité globale pour mieux ensuite être responsable de tous les miettes de réalité, les résidus de valeur qui restent par la suite, hein, parce qu'on ne se préoccupe pas de l'essentiel. Alors que c'est ce qu'il faudrait, et là je termine avec ça, c'est précisément, selon Freytag, ce qu'il faudrait recréer, c'est-à-dire une nouvelle hiérarchie des valeurs qui serait capable de soumettre la technique à des finalités réfléchies, pas travailler à partir d'une série de problèmes éclatés, mais du point de vue de la société, du point de vue des représentations collectives qui devraient faire l'unité de la société. Que voulons-nous? Qu'est-ce que la vie bonne? Quelle est la place de la technologie? Voulons-nous un monde sans humains avec des robots? Est-ce qu'on veut que l'école soit, que les cours à l'école soient donnés par des robots? Ce sont des questions de hiérarchie des finalités et des valeurs qui devraient être politiquement déterminées. Or, dans l'éthique sans politique dans laquelle nous sommes, il n'y a pas de place pour ces questions politiques. Donc, c'est sûr que Castoriadis va dire la même chose. Il faut reconstruire des institutions de l'autonomie qui permettent de réhierarchiser les valeurs puis de produire des finalités, donc de lutter contre l'effacement des finalités. Or, cette éthique est absolument incapable de faire ça. Mais plus, peut-être plus profondément que ça, c'est pas seulement le développement d'institutions de l'autonomie, c'est pas juste un retour à la politique qu'il faut, parce que Freytag va beaucoup plus loin. Freytag dit, au fond, que c'est un retour à l'ontologie. Parce qu'un des problèmes de cette éthique, c'est qu'elle est formelle. J'ai dit tantôt, c'est une éthique néo-kantienne formaliste. Or, ces processus, comme disait Maxime tantôt, sont dans l'indifférenciation généralisée de l'humain, de la machine, de la nature, de la matière. Ils sont en train de tout indifférencier pour tout reprogrammer et tout recomposer, la bioéconomie, etc. Donc, s'il n'y a pas un retour à une réflexion philosophique, dialectique, ontologique, qui pose la question de qu'est-ce que c'est l'action humaine dans son rapport au sens, qu'est-ce que c'est la société, est-ce que le mode de développement doit être transformé, qu'est-ce que c'est la normativité, comment produire la normativité. Si les limites de l'être ne sont pas repensées, ben, il va être détruit. Et donc, ce n'est pas seulement de réhabiliter une articulation entre éthique et politique, c'est de revenir à des questionnements ontologiques. Qu'est-ce qu'on est en train de défaire? Qu'est-ce qu'on est en train de détruire, en fait? Pour nous sauver de l'éthique et des éthicologues, hein, il faut reconnecter avec cette dimension ontologique. Et Freytag dit aussi que ça suppose de repenser aussi la dimension pédagogique des choses. C'est-à-dire qu'une éducation qui va être faite par des machines, c'est le contraire de l'éducation qu'on devrait être en train de faire aujourd'hui. Une éducation qui nous apprend à empêcher le monde de se défaire, donc un souci de penser les conditions ontologiques du maintien dans l'existence de l'humanité, ce n'est pas une éducation donnée par des machines. C'est une éducation proprement philosophique, branchée sur la culture, branchée sur l'esprit, sur la reconnaissance de la fragilité de l'être, notre dépendance envers la fragilité de l'être. Ça ne peut pas être une éducation qui va être donnée par des machines. Okay? Donc, ça suppose de repenser la paideia. Et Freytag dit, surtout, ça suppose une conversion cognitive, normative et esthétique, herméneutique. Cette conversion suppose la reconnaissance de notre dépendance envers l'être dans sa fragilité. C'est-à-dire que, autrement dit, on a le choix entre l'obsolescence de l'homme, dont parlait Gunther Anders, ou la capacité de convertir le regard pour reconnaître à nouveau la valeur de ce qui aujourd'hui est réduit à l'indifférenciation par le processus général dans lequel nous sommes. Merci.